Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Voici le programme. Dans un instant, on parlera des étrangers dans la résistance dans la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de 13h, le guide du Bordeaux colonial reviendra sur la guérilla kurde, son histoire et sa théorie politique. Mais avant cela, c'est le journal de notre plat de résistance. On commence par un appel à la grève inédit dans le monde des jeux vidéo. C'est la première fois dans l'histoire du géant Ubisoft que tous les syndicats appellent à faire grève. Des syndicats récemment élus, qui plus est. Plus de 5000 salariés, dont plus de 400 à Bordeaux. Une augmentation de salaire est demandée par les trois syndicats, celui des travailleurs du jeu vidéo, STJV, la CFE-CGC et Solidaire, qui avait fait d'ailleurs liste commune aux dernières élections. Depuis 2 ans, les augmentations de salaire n'ont pas suivi l'inflation, alors que l'entreprise, elle, gagne de l'argent, nous disent les syndicats. Le cofondateur d'Ubisoft, Yves Guillemot, qui est également milliardaire, a d'ailleurs annoncé vouloir faire 200 millions d'euros d'économies sur 2 ans, tout ça sans plan de licenciement, mais par ce qu'il appelle une attrition naturelle, apprend-on dans le journal L'Humanité. Un anglicisme synonyme d'usure, voire même d'écrasement par des mauvaises conditions de travail et des salaires plus bas. Sur 20 000 salariés, 1 000 ont déjà quitté l'entreprise à travers le monde, tout ça en seulement 1 an, et sans aucun plan social. Une autre mobilisation, là, c'était hier à Bègles avec les enseignants des écoles. Ils se sont invités au conseil municipal pour demander le retour de la semaine de 4 jours dans les écoles de la ville. Un échange un peu tendu, il faut le dire, avec le maire Bègles qui n'a pas souhaité leur laisser la parole tout en autorisant la distribution des tracts des manifestants. Il a tenu à rappeler que la semaine de 4 jours et demi avait été obtenue après consultation des parents en 2021. On lit d'ailleurs dans Sud-Ouest que l'intersyndicale SNUDIFO et la CGT Éducation envisage une grève après les vacances scolaires qui arrivent ce vendredi, jour aussi où une délégation sera officiellement reçue par le maire écologiste. La relaxe a été requise pour Safran Céramics hier dans un procès en appel dans l'accident mortel, l'incendie de la poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles. La relaxe avait été demandée en première instance mais n'avait pas été retenue. Benjamin Baillet, ouvrier, était mort, brûlé vif à la poudrerie le 5 décembre 2013, il y a plus de 10 ans déjà. Et pour autant, la justice n'a toujours pas pu rendre complètement son avis et son délibéré. Safran Céramics, anciennement Héraclès, avait fait appel après avoir été condamné en juin dernier à 225 000 € d'amende pour homicide et blessures involontaires. 2 autres salariés avaient été gravement blessés. Le délibéré de cet appel sera rendu le 15 mai prochain. Et puis de ces combats dans le monde du travail, il en sera aussi question lors d'une projection dont la Clé des Ondes est partenaire, demain soir, par la fenêtre ou par la porte. C'est le film projeté au cinéma Utopia Bordeaux demain soir à partir de 20h15 dans le cadre des projections La classe ouvrière, c'est pas du cinéma. Par la fenêtre ou par la porte, c'est un documentaire qui revient sur la politique cruelle et meurtrière à France Télécom. Un documentaire qui n'en reste pas moins combatif puisqu'on y entend celles et ceux qui ont lutté contre cette inhumanité alimentée par la privatisation et la rentabilité financière. Rendez-vous donc demain soir à partir de 20h15 au cinéma Utopia. Alors que l'hommage à Robert Badinter, on l'a entendu dans ce journal de Radio France Internationale, va être donc donné à Paris dans quelques instants, avec notamment l'annonce probable et à venir de son entrée au Panthéon. Eh bien, avec toi, Baptiste, et tes invités, on revient sur d'autres entrées au Panthéon qui sont à venir.
Le 21 février prochain, Missak et Méliné Manoukian entreront au Panthéon. 80 ans après l'exécution de Missak par les Allemands, c'était donc le 21 février 1944. Missak Manoukian, ouvrier et poète arménien, immigré en France, il s'était le leader d'un groupe de 23 résistants étrangers durant la Seconde Guerre mondiale. Alors cette panthéonisation, elle avait été proposée par un collectif de citoyens et de personnalités. Pour eux, Manoukian représente l'engagement des étrangers morts pour la France dans le combat contre le nazisme et pour la République. En parallèle de cet événement officiel, un collectif s'est créé pour faire vivre la mémoire des étrangers dans la résistance en France de 1940 à 1945 et de tous les étrangers et étrangères d'ailleurs, car il n'y a pas que Manoukian et sa bande qui ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'autres se sont battus, espagnols, italiens, polonais, portugais et d'autres. Ce collectif pour la mémoire des étrangers dans la résistance organise une série d'événements jusqu'au 21 février à Paris et à Bordeaux, et plusieurs de ses membres sont nos invités aujourd'hui pour parler de tout cela. D'abord Manuel Dias, bonjour Manuel.
Bonjour.
Tu es membre du comité Sousa Mendes, président de la Ligue des droits de l'homme de Gironde et de Bordeaux par ailleurs, et tu es l'un des coordinateurs de ce collectif à la mémoire des résistants étrangers en France. Bernard Lavallée, bonjour.
Et bonjour.
Bernard, tu es professeur d'histoire, spécialiste de l'histoire espagnole et membre de l'association Ay Carmela. Peut-être Ay Carmela, qu'est-ce que c'est en deux mots ?
Ay Carmela, c'est une association qui au départ a été fondée par les fils et les petits-fils d'Espagnols émigrés, disons, entre 36 et 39, mais qui évidemment s'est ouverte puisque le renouvellement de génération fait que les choses à cet égard n'ont pas changé mais évolué.
Valentin Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Membre également du comité Sousa Mendes et également au bureau de la Ligue des droits de l'homme de Bordeaux. Et toi aussi, tu as coordonné un peu le travail de ce collectif. José Garcia, bonjour.
Bonjour.
Vice-président de l'association Caminar et également de Ay Carmela. Alors, Caminar, qu'est-ce que c'est en deux mots ?
En deux mots, ça va être difficile, mais Caminar, en fait, c'est un groupement d'associations mémorielles dans toute la France. Nous sommes aujourd'hui 15 associations, que ce soit dans le Nord, dans Lyon, à Tours, à Angoulême, à La Rochelle, à Bordeaux, évidemment, à Agen, dans le département de l'Aude, du Gers, et à Pau, il y en a deux associations. Une qui est à Laurent-Sainte-Marie, et on connaît tous le camp de Gurs, et à Pau également. Voilà, donc cette association a été créée en 2014.
Très bien. Et puis Esmeralda Travé, bonjour Esmeralda.
Bonjour.
Qu'on connaît aussi pour l'émission Achaïra et pour les Clés des Libertés sur la Clé des Ondes. Tu es là en tant que présidente de l'Amicale des Anciens Guerrilleros Espagnols en France, FFI. Section de Gironde. Ça, bon, peut-être c'est plus compréhensible que d'autres associations, mais dire deux mots de cette structure.
Oui, bah, c'est une association, allez, disons-le, d'anciens combattants, affiliés aux anciens combattants. Et donc cette amicale, section Gironde, mais avec un siège à Toulouse et d'autres délégations départementales, est une association mémorielle qui travaille justement au souvenir et à la perpétuation des actions des guerrilleros espagnols investis dans la résistance en France.
Très bien, on va reparler de tout ça. Alors, je le disais, donc Missak et Méliné Manoukian entreront au Panthéon le 21 février prochain. Manoukian est resté un peu comme la figure leader d'un groupe de 23 résistants, connu pour l'affiche rouge sur laquelle ils avaient été pointés et recherchés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi le symbole pour vous ? Qu'est-ce que ça représente, Manoukian ? Et puis, on parlera de... Voilà, le fait que lui, Manoukian et son épouse Méliné soient panthéonisés maintenant, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce nom de Manoukian ? Qui a envie de commencer, Manuel ?
Écoutez, pour nous, le fait que Manoukian rentre au Panthéon national est à la fois une étape significative dans la reconnaissance de ce qui a été jusqu'à présent en déni, parce que le rôle des étrangers dans la résistance... qui a été déterminante pendant le mouvement de la résistance, progressivement a été passée à l'oubli, pour ne pas dire passée aux oubliettes. Le fait que Manoukian rentre au Panthéon est une manière à la fois de lui rendre hommage, à travers lui et son groupe, dans lequel il y avait différentes nationalités, y compris des Espagnols, des Polonais, des Italiens, etc., mais lorsqu'il y a eu le colloque au Sénat en 2022, le collectif d'historiens à laquelle nous avons participé, nous, on avait fait la proposition que ce soit l'ensemble du groupe Manoukian qui rentre au Panthéon. La décision du président de la République, c'était de panthéoniser Manoukian et son épouse. Par contre, devant la pression des historiens, il y aura dans la crypte où il y aura Manoukian et son épouse, la liste, une plaque avec la liste de l'ensemble des membres du groupe Manoukian.
On parle de Manoukian, c'est vrai que c'est resté comme voilà, une figure phare de cette résistance étrangère. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi pas d'autres ? Qu'est-ce qui a fait cela, Bernard Lavallée ?
Bon, la raison principale, c'est que c'était le chef. C'était donc la figure la plus visible, malheureusement, puisque évidemment il était le plus recherché. Mais c'était aussi une personnalité représentative d'un parcours. Puisque, bien sûr, il était venu en France, mais après être passé par la tragédie de ce qui s'est passé en Turquie en 1915, après avoir vécu...
Qu'est-ce qui s'est passé en deux mots en Turquie en 1915?
C'était le massacre des Arméniens, bien entendu. Après avoir vécu au Liban, alors sous mandat français, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est venu en France. Mais ce qui me semble important aussi, c'est que, cela a été dit rapidement tout à l'heure, ce qu'on a appelé le groupe Manoukian, je fais allusion à la fiche rouge, c'est vraiment un groupe plurinational. Il y a eu Manoukian qui était donc arménien, on l'a dit, il y a eu des Espagnols, il y avait des Italiens, je rappelle qu'il y avait un Allemand aussi, il y avait des Bulgares, Hongrois, et je rappelle aussi qu'il y avait dans les 23 fusillés, 3 Français, que l'on a oublié parce que justement les Allemands, comme disent les vers célèbres d'Aragon, parce que leurs noms sont difficiles, chercher à avoir un effet de peur sur les passants. Mais il y avait aussi 3 Français dont on peut rappeler le nom parce qu'on n'en parle jamais, Rouxel, Cloarec et Villis. Et je crois que justement ce mélange, allez, on va employer un mot, melting pot qu'on avait là, est représentatif d'une lutte effectivement patriotique, mais à l'échelle de la France, pour la France et dans la France, mais aussi à l'échelle de toute l'Europe. Et je crois que c'est cela qui fait, disons, que la figure de Manoukian est importante. Si vous me permettez, je voudrais profiter de ce que j'ai la parole pour dire autre chose. C'est que, à côté de la figure de Manoukian, il y a une autre figure dont on ne parle pas, c'est celle de Joseph Epstein, chef d'FTP MOI, de l'île de France.
Alors, on va tout de suite revenir pour faire un sort à ces termes de FTP MOI.
Oui.
C'est quoi les FTP ?
Alors,
c'est
les FTP, quoi les MOI ? Les FTP, c'était les guérilleros, disons, communistes. Et la MOI ou MOI.
Donc, FTP pour francs-tireurs partisans. Mais c'était l'organisation communiste du Parti communiste.
Voilà,
à partir...
C'était un organisme militaire. C'était la branche militaire du Parti communiste, alors clandestin.
À partir de 1940.
Fin 41. Et le personnage d'Epstein est important aussi pour Bordeaux, car lorsqu'il part de Pologne, il va directement à Tours comme étudiant, mais très rapidement il va vivre à Bordeaux, pendant toutes les années 30, en faisant d'ailleurs des va-et-vient entre Paris et Bordeaux, et à la fin des années 30, il va être le coordinateur à Bordeaux de l'aide à la République espagnole. Il était d'ailleurs membre d'un cellule du Parti communiste de Bacalan, pas loin d'ici. Et ensuite, il s'est engagé dans les brigades internationales, puis au moment de la guerre de 39-40, il s'est engagé dans la Légion étrangère, j'arrête là, mais c'est une figure que nous autres, en plus bordelais, nous ne devons pas oublier.
Et donc, Joseph Epstein, il fait partie des 23, j'ai pas...
Non, non parce que, en fait, Epstein était le chef de Manoukian. Ils ont été arrêtés à peu près en même temps, mais il y a une grande différence, c'est que les Allemands savaient qui était Manoukian, ils n'ont jamais su qui était Epstein. Ils savaient son rôle dans la résistance, mais ils ne savaient pas qu'il s'appelait Joseph Epstein et qu'il avait tout ce passé que j'ai rappelé brièvement.
Mmh. Oui, José Garcia.
Le nom de Joseph Epstein va être mis, il va être rajouté au 23. Il va être rajouté au 23.
Dans la crypte du Panthéon.
Dans la crypte, tout à fait. J'ai assisté récemment à un colloque avec des historiens où ça a été affirmé, suite à beaucoup de recherches dans les archives encore récemment. Et on a appris encore beaucoup de choses.
Epstein ne faisait pas partie des 23, mais c'était le chef de Manoukian. Donc il était tout à fait dans le mouvement.
Et juste pour rajouter sur ce que tu viens de dire, donc tu as créé avec ta femme, tu as été commissaire d'une exposition qui s'appelle Libertad, et qui a été exposé
aux archives départementales, aux archives il y a quelques départementales
ici en Gironde. Et nous avons eu l'honneur d'avoir le fils de Joseph Epstein qui est venu, et je crois que c'était important de le rappeler, parce que tout s'est passé, beaucoup de choses sont passées à Bordeaux, en particulier celle-ci, cette exposition également.
Alors, on va revenir sur tout ce que ça a été, cette résistance, et cette résistance de personnes étrangères en France pendant la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être sur l'actualité et sur voilà, ce qui a amené aussi politiquement Macron à prendre cette décision. Comment vous comprenez politiquement, j'ai envie de dire, dans la manière dont ça s'inscrit aussi dans l'actualité, cette décision d'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui a décidé, suite à une demande, suite à des comités, etc., de faire entrer Manoukian, le couple Manoukian au Panthéon, comment vous comprenez ça et qu'est-ce que ça marque? Est-ce que c'est un symbole fort et voilà, un geste fort de la part du président de la République? Peut-être Valentin?
Juste avant d'évoquer cet aspect, un détail qui n'en est pas un, c'est que Manoukian avait demandé à deux reprises la nationalité française et à deux reprises, ça lui avait été refusé. Donc il est resté tel qu'il était et pour autant son engagement a été total, complet, jusqu'au bout. Mmh. Voilà, donc c'est aussi quelque chose d'assez éclairant pour les valeurs de la République et la manière dont on traite les étrangers, dont on les traitait, et donc là, on continue à les traiter. Donc c'est aussi un lien avec l'actualité.
Mmh. Alors justement, sur cette nécessité politique, à ce moment-là, quel moment ça intervient et comment vous analysez un peu la survenue de cette panthéonisation, là, aujourd'hui, en 2024 ? Qui a envie de répondre là-dessus, Valentin ?
Je reviens juste sur le fait qu'effectivement, les deux parents de Manoukian ont été victimes du génocide arménien. Ils sont décédés, donc lui, il est venu après en France, à Marseille d'abord, après il est venu sur Paris. Je voulais dire que parmi les 23 fusillés au Mont Valérien, il y avait une douzaine de personnes qui étaient issues de communautés juives, quoi. Et ça ne le soulignait pas suffisamment, parce qu'avec la montée antisémite qu'il y a actuellement, l'antisémitisme, c'est important de le dire, qu'il y avait beaucoup de gens de confession juive. Mmh. Après, on dit des étrangers, mais c'est entre guillemets, parce que la plupart, ils étaient venus en France depuis longtemps, certains étaient naturalisés aussi, il faut le dire. Mais je voulais rebondir sur quelque chose qui est un peu plus politique, et c'est qu'en fait, il va être placé à côté de Marie Curie, au Panthéon. Mmh. Sauf que cette personne, qui était née en Pologne et qui a remporté deux prix Nobel à la France, n'aurait pas pu étudier dans notre pays à cause de la loi Darmanin. Voilà, je voulais dire ça.
Si la loi Darmanin, donc, qui a été approuvée ces derniers mois, avait été en vigueur à l'époque...
La loi qui a été approuvée juste un peu avant la panthéonisation. Alors c'est dans le fameux « en même temps » de notre cher président. Voilà, désolé, un peu de politique, mais bon, ça fait partie de...
Manuel Diaz, sur cette actualité aujourd'hui de la panthéonisation.
C'est un paradoxe, pour ne pas dire une contradiction, qu'au même temps, effectivement, on rend hommage à un grand résistant communiste, étranger, etc., qui n'a jamais pu avoir la nationalité française. Et rappelons-le pour l'histoire, jusqu'à 2000, l'intitulé « Mort pour la France » était réservé uniquement à des étrangers. Des Français, la grande majorité des étrangers qui sont morts pour la France, il a fallu attendre l'année 2000 pour que dans nos monuments, on puisse graver le nom des étrangers morts pour la France. Donc ça veut dire qu'il y a eu effectivement un déni, pour ne pas dire un mépris, vis-à-vis de tous ces résistants étrangers qui sont morts pour la France et qui ont versé le sang pour la liberté. Donc moi, je pense que cette loi qui a été promulguée le 24 janvier, même s'il y a eu des modifications par le Conseil constitutionnel, reste une loi raciste, indigne, contre aux valeurs fondamentales de la République. Et à mon avis, c'est contradictoire de promulguer cette loi qui stigmatise l'ensemble des étrangers en France. Au même temps, on fait rentrer une figure étrangère dans le Panthéon. Mais nous vivons dans un monde plein de contradictions. Nous, on se réjouit de la panthéonisation de Manoukian, et on rend hommage effectivement à cet acte politique, mais on dénonce cette loi raciste contre les valeurs de la République.
Alors justement, vous êtes saisi aussi de cette occasion pour en profiter et pour parler de tout ça. Peut-être c'est le moment de dire un peu comment est né ce collectif et qu'est-ce que vous avez voulu en faire. José ?
En fait, je voulais continuer sur la contradiction et sur en même temps. Tous ces étrangers, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient montrer leur attachement à la France, montrer leur attachement aux droits de l'homme, à la Révolution française, au siècle des Lumières, et certainement pas à celle de Vichy. Et c'est en contradiction, et c'est vrai, moi je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi, en même temps, puisque ça va être c'est à la mode, en même temps, il y a ça qui est très très fort, qui est très très fort. Et puis, d'un autre côté, se couperait avec cette nouvelle loi inique. Et là, c'est vrai qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et est-ce que ça résume un petit peu cette façon de faire du président de la République française, c'est-à-dire il ne sait pas où il va. On a l'impression qu'il navigue à vue. Et ça, non.
Essaye de donner des signes aux uns et aux autres, c'est-à-dire un signe pour la droite et l'extrême droite avec une loi raciste, et puis un signe pour un peu la gauche en disant oui, on fait rentrer Manoukian.
Oui, mais là, il faut choisir son camp. Je pense qu'ici, autour de la table, nous avons choisi notre camp. Et là, non, et c'est la porte ouverte, parce que la porte ouverte au risque de demain, de ce qui pourrait se passer en France, et on voit ce qui se passe aussi en Europe. Et en Espagne, puisque si on va en parler, en Espagne aussi.
Esmeralda.
Oui, non, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais bien, c'est vrai que c'est dommage que ce soit dans ce contexte-là politique actuel, parce que sans aller jusqu'à dire que le fait de faire entrer au Panthéon Manoukian, c'est une sorte de caution donnée. Bon, c'est vrai que ce paradoxe. Interroge ou ce paradoxe nous pousse à penser qu'en fait, eh bien, c'est aussi une sorte de contre-feu qui peuvent être allumés par le système politique actuel pour faire passer ce qui l'intéresse, c'est-à-dire toutes ces dispositions racistes et xénophobes.
Manuel,
nous avons choisi notre camp, qui est le camp de la liberté, qui est le camp des valeurs de la République. Qui est le camp de la démocratie, notre président aussi l'a choisi le sien. Notre président a choisi de donner des gages à l'extrême droite. Donc ça, c'est un acte symbolique avec une partie de la droite française. Et donc, il faut savoir, effectivement, il y a des moments dans l'histoire où il faut savoir choisir son camp. René Char, qui était un très grand résistant, a dit « Il fallait choisir ». Nous avons choisi la République et la liberté, d'autres ont choisi la collaboration avec l'occupant. Et donc je pense qu'il est nécessaire, dans des moments stratégiques, dans des moments où les choses essentielles sont en cause, que nous puissions, nous, en tant qu'éléments de la société française, de la société civile, en tant que descendants des combattants, parce qu'on parle des résistants étrangers, nous sommes, nous, les descendants de ces hommes et de ces femmes, et donc, par respect pour eux, nous devons continuer à témoigner que ces hommes et ces femmes se sont engagés au nom des valeurs, et donc, c'est ça qu'il faut maintenir vivant. Et nous avons choisi notre camp, et nous serons là, face à cela, pour défendre la République, la liberté et la démocratie.
Et est-ce que, justement, il n'y a pas ce danger-là de faire tout se confondre, c'est-à-dire à la fois en même temps on est raciste, on promeut une loi raciste, et en même temps on fait entrer un résistant, et donc ça rend les frontières encore plus floues, et en fait on sait plus où on est, on sait plus, il y a une sorte de flou général, et on sait plus qui est quoi. José ?
Justement, c'est à nous maintenant, et on le voit avec ce qui va se faire jusqu'au 21 février, c'est à nous maintenant, j'allais dire, de profiter, entre guillemets, de cette situation, pour montrer que nous, fils, petits-fils de républicains espagnols, portugais ou autres, mais dans toute sa diversité, eh bien, nous représentons aussi la France, et de dire, par rapport à ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, ce qu'ils nous ont raconté, on ne veut plus jamais ça. Et pour plus jamais ça, il faut montrer que, oui, nous avons les moyens, nous avons le devoir de transmettre. Le travail des associations, c'est la transmission. C'est la transmission. On le voit lorsqu'on intervient de plus en plus dans les écoles, par exemple, dans les lycées. Les élèves apprennent quelque chose. Ils travaillent d'abord avec leurs professeurs et ils ont affaire à des gens qui n'ont pas vécu, parce que ce n'est plus notre génération, mais que nous transmettons ce que nous a dit, ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents. Et ça, il faut vraiment le voir lorsque nous passons derrière des films, par exemple, lorsqu'il y a un travail qui a été fait. Eh bien, ça interpelle les gens, les élèves. Et ça les interpelle d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un pourcentage, d'immigrés assez, qui n'est pas important, mais qui existent et qui se reconnaissent dans ce que nous, on transmet.
Bernard Lavallée.
Oui, je crois que la pantonisation, j'aime pas ce mot, mais enfin bon, qui va avoir lieu, doit être l'occasion de la rencontre de deux choses. D'une part, comme ça a été dit tout à l'heure, on a beaucoup oublié au cours des décennies passées ce qu'avait été le rôle de ces résistants étrangers avec les résistants français, hein, comme je rappelais tout à l'heure, qu'il y avait des Français aussi dans le groupe Manoukian. Donc je crois que cette panthéonisation doit être l'occasion d'un travail d'histoire, c'est-à-dire de reconstitution le plus scientifique possible de ce qui s'est effectivement passé. Mais en même temps, je m'excuse, en même temps, ce doit être aussi un travail de mémoire, c'est-à-dire de maintien et de transmission des vécus. Et contrairement à ce qu'on a dit parfois, et même souvent, la mémoire et l'histoire ne sont pas forcément en opposition. Elles ne disent pas la même chose, elles ne s'occupent pas des mêmes choses, mais elles ont un même but, et donc elles sont souvent complémentaires. Et donc je crois qu'effectivement, nous sommes réunis ici parce que les associations auxquelles nous participons, et dont certains sont les représentants essentiels, ont pour objet, ont pour mission, se sont données pour mission, précisément de rassembler les apports de l'histoire et les apports de la mémoire. Et d'ailleurs, elles peuvent voir quelquefois que ce n'est pas exactement la même chose, mais elles expliquent ces différences. Et je crois que, je rebondirai sur ce que vient de dire José, le problème de la mémoire est très important. Mais le problème de la mémoire n'est pas contraire à la recherche historique et à ce qu'elle nous dit.
Donc il y aura une cérémonie à cette base sous-marine, au monument à la mémoire des républicains espagnols, à 10h le mercredi 21 février. Le même jour, à 11h30, une autre cérémonie et dépôt de gerbes au monument de la ville de Bordeaux, à la mémoire de la résistance qui se situe sur l'esplanade de Charles de Gaulle. Manuel.
Dans le lieu symbolique de la ville de Bordeaux à la mémoire de la résistance, nous voulons nous approprier cet espace-là pour rendre hommage à nos combattants. On le fait avec les institutions françaises. Il est normal qu'on rend hommage aux résistants étrangers dans ces lieux symboliques. Et le soir, à 20h15, il y aura la projection d'un film à l'Utopia, à laquelle nous participerons les uns et les autres, pour encore une fois éclairer cette page de l'histoire.
Ni travail,
nous souhaitons
ni
également
famille, ni patrie.
Que ce travail de programmation puisse être relayé par des interventions dans les établissements scolaires. Nous sommes en train de travailler actuellement avec le rectorat, avec la région et le département, pour que des instructions soient données, pour qu'un certain nombre d'actions puissent avoir dans les collèges et dans les lycées.
Ni travail, ni famille, ni patrie, donc à l'Utopia, mercredi 21 février à 20h15, suivi d'un débat avec vous cinq, si je ne me trompe pas, et j'imagine qu'on pourra retirer les places à l'avance. Merci beaucoup à tous les cinq, on vous retrouve pour une deuxième émission la semaine prochaine, mercredi prochain, pour parler plus en détail de ce que c'était cette résistance étrangère en France. Merci beaucoup donc à vous cinq, Manuel Dias de la Ligue des droits de l'homme de Gironde et du collectif à la mémoire des résistants étrangers en France, Bernard Lavallée, professeur d'histoire et membre de l'association Aïkarmela, Valentine Fernandez du comité Sousa Mendes de la LDH de Bordeaux et du collectif